Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Théo Le Verger, il est délégué régional des Jeunes Républicains, responsable départemental des Jeunes Républicains en Ille-et-Vilaine. Et malgré les vicissitudes routières, eh bien, il nous a rejoint au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
On va parler ce matin, tout de suite on va rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, avec la sécurité, ces problèmes de sécurité dans les villes bretonnes et Rennes en particulier, où s'est déplacé le ministre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il a fait des promesses à Rennes. On va en parler donc de ces problèmes de sécurité, Théo Le Verger. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, cette montée de la violence dans les villes bretonnes ?
Ce qu'on peut tout d'abord noter, c'est que l'Ouest a perdu sa tranquillité. Pendant très longtemps, l'Ouest était perçu comme le havre de paix de la France, où tous ces problèmes-là n'existaient pas. Ça a commencé par Nantes, où la situation sécuritaire s'est dégradée il y a déjà plus d'une dizaine d'années. C'est quand même dommage pour la ville qui était toujours première dans les classements des villes où il faisait le plus bon vivre, où tout le monde voulait partir s'installer et travailler pour fonder sa famille dans un cadre de vie qui était exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville que les gens évitent. Et Rennes a suivi exactement la même trajectoire. On peut limite penser que Madame Appéré était jalouse du bilan de Madame Roland d'un point de vue sécuritaire et voulait absolument que Rennes soit capitale de la Bretagne de l'insécurité et que ça ne soit pas Nantes. C'est chose faite puisqu'on peut voir que depuis le début de l'année, le bilan à Rennes est extrêmement lourd. On ne va pas redétailler tout ce qui s'est passé à Rennes, mais le plus gros des drames que nous avons eu, cet enfant de 5 ans qui a été touché dans une fusillade à côté de Rennes, sur fond de trafic de drogue, ce qui a amené le ministre Bruno Retailleau à se déplacer à Rennes. La première des choses que l'on peut noter sur ce déplacement de M. Retailleau, c'est qu'il y avait des grands absents à ce déplacement. Mmh. On a constaté l'absence des députés du Nouveau Front Populaire qui sont élus dans les différentes circonscriptions de Rennes, aucun d'eux n'était présent. Ce qui montre bien leur attachement au sujet de la sécurité. Ils n'en ont pas grand-chose à faire, parce que ça ne rentre pas dans leur programme idéologique. Et ça montre encore une fois qu'ils sont bien loin de la préoccupation des Bretons et des Bretonnes et des Rennais et Rennaises qui vivent cela au quotidien. L'autre grande absente, c'est Madame Appéré, qui était absente pour des raisons familiales ou personnelles apparemment. Madame Appéré nous a quand même fait un petit coup de communication en essayant de couper l'herbe sous le pied du ministre, en faisant des effets d'annonce avant qu'il arrive. On aurait limite cru entendre une maire de droite parler, sauf que ces effets d'annonce ne sont jamais suivis de quelconque mesure. Par exemple, à Rennes, la police municipale n'est pas armée, et certains syndicats le réclament. C'est normal, on peut pas agir face à des trafiquants qui sont de plus en plus armés, qui se livrent une guerre avec des armes automatiques, semi-automatiques, ou même la police nationale parfois n'a pas pu intervenir. On a souvenir de fusillade au Blône, où il y a eu 50 minutes de fusillade, la police n'a pas pu intervenir, c'est le RAID qui a dû se déplacer. Donc comment voulez-vous que des policiers municipaux non armés puissent intervenir là-dessus? Si vous voulez vraiment agir, les armerez.
Est-ce que c'est le rôle finalement de la police municipale d'être armée, ou est-ce qu'il faut pas renforcer la police nationale?
Initialement, le rôle de la police municipale n'est pas ce rôle-là. Sauf que, à la suite des défaillances de l'État, les maires ont dû suppléer, mais comme sur plein d'autres de sujets, les maires ont dû suppléer à cela pour garantir la sécurité de leurs habitants. Donc sinon, ce n'est pas la mission première de la police municipale qui est une police de proximité. Aujourd'hui, si ce sont les premiers et les plus proches lorsqu'il y a, par exemple, une fusillade ou qu'il y a quelqu'un qui a un règlement de compte au couteau, c'est eux qui doivent intervenir. Ils ne peuvent pas, ils vont pas rester devant, regarder et attendre que la police nationale arrive. Donc leur armement est indispensable, notamment sur une société qui devient de plus en plus violente, de plus en plus armée. Les attaques au couteau sont légion, c'est indispensable.
Est-ce qu'il faut aussi agir sur le volet justice, parce que il y a des arrestations, il y a évidemment les condamnations, mais on a l'impression que là encore on donne pas les moyens à la justice d'agir de façon assez coercitive.
Bien sûr. Alors sur le sujet du narcotrafic, il y a les solutions à court terme et à long terme. Solution à court terme, c'est ce que Monsieur Retailleau a mis en place à Rennes, à savoir le déploiement de deux compagnies de CRS supplémentaires, à savoir le renforcement de la BST, qui est une brigade de police de terrain et de proximité. Ça, c'est des mesures de court terme pour réussir à endiguer légèrement et à éviter un nouveau drame dans les jours qui viennent ou des représailles. Sauf que ça ne combat pas totalement le problème. Ça ne l'éradiquera pas, pardon. Pour l'éradiquer, donc évidemment, il faut agir sur le volet de la justice.
Et de l'investigation peut-être aussi, bien sûr, sur les enquêtes.
Il y a trois grands volets où il faudrait agir pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Tout d'abord sur le blanchiment d'argent. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un euro d'argent sale acquis qui serait le produit de la vente de drogue qui puisse être injecté dans le système financier légal. C'est le premier des points sur lequel il faut attaquer. Sur le système d'investigation, il faut évidemment renforcer les moyens des enquêteurs pour qu'ils puissent lutter contre des réseaux qui sont de plus en plus internationaux, de plus en plus organisés. Et enfin, sur le volet de la justice, il va falloir deux choses. Tout d'abord que la justice, que la peur change de camp, que ce ne soit plus les habitants qui aient peur, mais les trafiquants qui aient peur. Et pour cela, il faut que quand qu'on leur inflige une peine de prison, qu'ils y aillent. Parce que le problème, c'est qu'avec une surpopulation carcérale en France, vous n'allez pas en prison sur des peines inférieures à 2 ans. C'est très rare. Donc quand vous êtes condamné une fois, deux fois, trois fois à des peines d'emprisonnement d'un an, 2 ans, et qu'à chaque fois vous ressortez libre sur bracelet, vous avez une forme d'impunité qui se crée, et ils montent en violence, ils montent en puissance en disant de toute manière rien ne m'arrivera. Si dès la première condamnation à 1 an, ils font 1 an en prison, en général, ça en dissuadera déjà une partie de recommencer. Donc pour ça, c'est par la construction de prisons supplémentaires, mais ça peut être aussi par l'instauration de peines planchers qui avaient été supprimées à l'époque.
Avec, avec un volet peut-être plus coercitif, là aussi, les députés vont avoir à se prononcer là-dessus.
Exactement, il faudra avoir un cadre législatif nouveau, créer un nouvel écosystème juridique pour lutter au mieux contre ce narcotrafic. Et ce que nous avions fait à l'époque contre le terrorisme, quand le terrorisme avait durement frappé la France il y a une dizaine d'années, l'État avait réagi par des moyens forts, et notamment en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui le parquet national antiterrorisme. Il faut calquer cela, cette méthode-là, sur le narcotrafic.
Il faut une forme de cour spéciale, finalement.
Exactement. Une fois qu'on aura donné tous ces moyens, ces différents volets, et tout cela sera mis en place, la guerre pourra enfin se faire à peu près à armes égales. Et comme l'a très justement souligné M. Retailleau, actuellement, on est à minuit moins une. La France est sur un point de bascule, et si rien n'est fait contre le narcotrafic, il y a fort à craindre que la situation se dégrade et qu'elle soit très très difficilement récupérable dans les années à venir.
Avec un narcotrafic qui se déplace aussi dans les campagnes, on entend, vous faisiez référence à Nantes et à Rennes, mais on entend aussi beaucoup de cas de figure dans des campagnes de trafic de stupéfiants, où là évidemment ça se passe, j'allais presque dire, au vu au-dessus de tout le monde. Est-ce qu'il va falloir aussi avoir une réponse égalitaire entre les villes et les campagnes, de crainte justement que le trafic se déplace?
Dans le monde rural, la présence de réseaux de trafic de drogue commence à s'étendre depuis plusieurs années. Et surtout, ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation dans le milieu rural. Parce que sans consommateur, il n'y a pas de trafiquant. Et chez les jeunes en milieu rural, la prise de drogue dure est en augmentation extrêmement frappante, notamment sur des drogues comme la cocaïne, ou dans l'imaginaire collectif, on la verrait plus dans des beaux milieux à Paris, dans des appartements cossus. Et la réalité, c'est que il y en a peut-être, mais que dans des campagnes, c'est une drogue qui est omniprésente, qui est beaucoup plus facilement trouvable en milieu rural qu'en plein Paris. Et ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau qui s'est étendu, qui s'est organisé, contre lequel il va falloir lutter très efficacement également.
Il faut aussi avoir un volet coercitif vis-à-vis des consommateurs, des clients finalement.
Mais comme je l'ai dit juste avant, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants. Sur la consommation de cannabis, elle est en augmentation constante en France. On est même, il me semble, le premier pays consommateur de cannabis, et le pays où il y a la part de la population qui a déjà testé, qui est la plus importante. Et le gros risque, c'est que le cannabis s'installe définitivement comme quelque chose limite de culturel en France. Et si cela s'installe de manière durable comme ça, ça va être extrêmement compliqué de lutter. Donc il faut faire en sorte que dès le plus jeune âge, la culture, comme monsieur le ministre disait, la culture du petit joint disparaisse, que ça ne soit plus un acte banal et que les parents veillent aussi au grain, parce qu'il y a aussi un rôle des parents là-dessus. Que les lycées veillent et que les consommateurs soient sensibilisés dès le début, dès le plus jeune âge. Et ensuite, forcément, on n'a pas envie, à chaque fois quand on se dit, bon, pour un joint, on ne va pas pénaliser la personne. Alors, en général, les policiers, quand ils prennent quelqu'un ainsi, ils écrasent le joint par terre et, ainsi, et on passe. Le problème, c'est qu'à force de laisser passer, on en arrive dans la situation actuelle.
Avec une violence que l'on voit un petit peu partout, aussi dans les transports en commun, ça a été le cas à Paris ces derniers jours, on a une société qui se fracture, qui devient violente en France, plus violente. Est-ce que c'est préoccupant aussi cette situation ?
Mais le plus préoccupant, mais c'est, ça monte en parallèle de la violence des narcotrafics. Mmh. On a affaire à chaque fois des gens de plus en plus jeunes. Et surtout qui ont une espèce de détachement par rapport à ce qu'il se passe, qui ne font plus aucune différence entre le bien et le mal, qui pour eux une vie n'est pas quelque chose de très important. Et on a bien vu ce qui s'est passé, l'attaque dans le RER, on a eu une espèce de règlement de compte à coup de hache, et j'ai vu les vidéos après des personnes qui ont été attaquées, et une espèce de détachement, pas de sidération, comme
d'être très jeune,
si c'était passé quelque chose de parfaitement normal. La personne qui filme, il filme comme s'il avait vu un truc drôle se passer sous ses yeux. C'est un détachement total qui fait extrêmement peur. Et ce détachement, on peut le voir sur le drame qui a frappé à nouveau Romans-sur-Isère et le club de rugby de Romans, qui compte désormais un deuxième mort en l'espace d'un an seulement. On pense aux familles tout d'abord, mais ce jeune a été abattu par quelqu'un suite à une altercation visiblement dans la boîte de nuit, qui est revenu sur le parking, qui a ouvert le feu au pif. C'est même pas ciblé, c'est un détachement total, c'est quelque chose m'a contrarié, je ne veux pas que ça me contrarie, donc je reviens par les armes. Mais c'est la même chose qui s'est passée dans une boîte en Normandie, où il y a une altercation avec un jeune champion de boxe régional, avec une personne en situation irrégulière, sous OQTF. La personne, visiblement, n'a pas apprécié la première altercation qu'il y a eu dans la boîte. À la sortie de celui-ci, une bagarre a éclaté. Et la personne sous OQTF n'a pas supporté d'être visiblement battue. Et plutôt que de repartir chez lui, comme toute personne ferait normalement, non, il doit retourner dans sa voiture, prendre un couteau et planter le jeune dans le dos. Est-ce que ça valait le coup ? Je ne pense pas, de prendre une vie pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un détachement total de la valeur d'une vie humaine.
On est finalement sur un phénomène de société aujourd'hui.
Totalement. C'est un phénomène de décivilisation de certains de nos jeunes et auquel il va falloir remédier très très vite. Parce que pour faire société, ça va être extrêmement compliqué de faire société avec des personnes qui ne respectent plus les règles élémentaires de vie en communauté.
On va passer à un autre sujet qui n'est pas forcément si éloigné, puisqu'on va parler du budget, on en parle beaucoup en ce moment. On pourrait commencer finalement en parlant du budget de la justice ou en parlant du budget des forces de l'ordre. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau, et même s'il y a une forme d'augmentation demandée, ça reste encore très insuffisant.
Sur les budgets de la justice.
Oui, de la justice.
C'est exactement ce que nous avons dit à l'Assemblée, c'est que nous on est prêts à faire des économies sur un certain nombre de budgets. Toutefois sur les ministères régaliens, au contraire, dans la situation actuelle, les budgets doivent évoluer. Quand on voit le délai de traitement des dossiers par la justice, et pour le coup ça c'est pas spécialement de leur fait, c'est que au nombre d'effectifs où ils sont, ils abattent un travail considérable, ils ne peuvent pas... réduire cette durée qui est littéralement incompressible pour l'instant. Donc pour faire en sorte qu'on ait une justice efficace, une justice rapide, pour que ce n'est pas normal qu'un citoyen qui dépose une plainte, même pour une affaire autre que pénale ou civile, mais qui dépose une plainte entre le moment où la plainte est déposée et le verdict final, il peut s'écouler 15 ans si jusqu'au moment de la cassation, ça voire 15 ans, des fois un peu plus. Ce n'est pas normal, c'est une justice efficace, c'est une justice rapide. Et pour donner plus de rapidité à la justice, il va falloir augmenter certains effectifs, notamment sur les effectifs de magistrats et de greffiers. Donc voilà. Là où ça passe par une augmentation du budget, et idem sur le ministère de l'Intérieur, on l'a bien vu aujourd'hui, les sujets sécuritaires, on l'a évoqué juste avant, donc on a parlé de la réponse qui pourrait être juridique, législative et autres, mais il y a aussi une réponse policière, et la police aujourd'hui est en partie débordée, ils ont un nombre d'heures supplémentaires qui sont pas payés parce qu'il n'y a pas les moyens de les payer, mais ils ont un nombre d'heures supplémentaires qui est énorme à leur actif. On leur demande toujours plus. Ils sont pour certains au bord de la rupture, au bord du craquage, parce qu'ils sont en sous-effectif par rapport à la situation. Donc oui, il va falloir dans les années à venir avoir une augmentation considérable des effectifs, notamment dans les villes qui commencent à sombrer, comme Rennes ou comme Nantes.
Avec évidemment la dure équation de pouvoir continuer à assurer des missions pour l'État, missions régaliennes, et en même temps réaliser des économies. Alors, on le voit, ça a été le cas de la discussion sur la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça s'est fait dans la douleur.
Exactement. Pour revenir sur le budget, pour expliquer assez simplement, le vote du budget se décompose en deux parties. Une première partie qui est le vote du PLF, qui est le projet de loi finance, qui considère le budget de l'État, le vote d'un deuxième volet qui est ce qu'on appelle le PLFSS, qui est le projet de loi de la finance de la sécurité sociale, qui concerne du coup, comme son nom l'indique, le budget de la sécurité sociale, qui est extrêmement important. Sous la sécurité sociale, c'est à peu près 45% du budget global de l'État. Pour revenir sur la situation budgétaire de la France actuellement, pour montrer à quel point la situation est critique, on a un déficit public en 2024 qui était de 6,1%, soit 52 milliards de plus que ce qui était prévu dans le projet de loi finance 2023. Donc ça fait un dérapage de plus à l'actif de M. Bruno Le Maire. Bon, c'est au moins le cinquième ou le sixième dérapage de sa part. On s'y attendait.
Il n'a pas été honnête dans la démarche, Bruno Le Maire, selon vous?
Il va y avoir on l'avait évoqué sur ce plateau-là, qu'entre le déficit public annoncé et celui qu'on a aujourd'hui, il y a une marge qui est considérable. Et il y avait également une marge considérable sur la croissance qui était annoncée. Il y avait 0,4 ou 0,5 points de différence, il me semble, entre ce que Bruno Le Maire avait annoncé et ce qu'avait été la réalité. Le ministère de l'économie français compte parmi les meilleurs analystes dans ses rangs. Ça m'étonnerait extrêmement fort qu'il se soit trompé à l'époque sur plus de 0,4 points de croissance. C'est quasiment impossible. Et ça m'étonnerait aussi qu'il n'ait pas prévu un tel dérapage.
Il a caché quelque chose, on peut dire ça ?
Soit quelque chose a été caché, soit quelque chose n'a pas été maîtrisé. Il y a forcément une erreur quelque part, parce qu'on n'a pas 52 milliards d'euros de dépenses non budgétées qui arrive comme ça soudainement. Ce n'est pas possible. Donc, j'espère que l'Assemblée nationale ouvrira un jour une commission d'enquête pour savoir ce qu'il s'est réellement passé sur ce dérapage de 52 milliards du budget et sur ces prévisions erronées qui avaient été données à l'époque par le ministère de l'économie.
Il y a plusieurs groupes parlementaires qui demandent, plusieurs groupes politiques qui demandent qu'une commission d'enquête soit mise en place. Il y a une ouverture, une audition même de Bruno Le Maire.
Oui, en effet.
Voilà, donc on va suivre le dossier. Avec aujourd'hui, là encore, des débats qui s'annoncent houleux, puisque l'Assemblée nationale va examiner, en commission puis en séance publique, le volet dépenses. Et c'est toujours là que le bas blesse.
Exactement. Parce que, comme on disait avant, là, en 2024, on avait 6,1% de déficit. Sur la même trajectoire, en 2025, on va arriver à 7%. Ce qui est le double de ce qui est autorisé par la législation européenne, ce qui d'ailleurs montre comme quoi qu'on nous rabâche matin, midi, soir qu'on ne peut pas faire un tel ou que ceci n'est pas possible parce que la législation européenne l'empêche visiblement pour dépasser du double la limite du déficit là c'est permis.
Il y a eu un petit contournement.
Oui, apparemment. Et ce déficit est aussi grand en France parce que la dépense publique est aussi grande. On a 55% du PIB français la dépense publique correspond à 55% du PIB français. Ce qui est le record mondial de la dépense publique, ça fait au moins un domaine où on est premier, mais c'est quand même alarmant de se dire que plus de la moitié de la richesse produite de notre pays, dans notre pays, vient de la dépense publique. Ce n'est pas normal, une économie saine ne fonctionne pas ainsi. Ce déficit public, le problème c'est qu'il s'est creusé. Il a commencé à se creuser réellement au moment du Covid, de la politique du quoi qu'il en coûte, dans cette situation qui était extrêmement compliquée. La politique du quoi qu'il en coûte, je ne la jugerai pas, parce que c'est une situation inédite. On ne sait pas ce qu'on aurait fait à la place et les autres pays européens ont fait la même chose, donc pas de souci là-dessus. Sauf que après ce déficit lors du Covid, les autres pays européens, eux, à la fin de la crise du Covid, ont diminué leur déficit pour tendre vers le zéro. La France n'a pas fait ça. On est le seul pays européen qui a fait l'inverse. Le résultat aujourd'hui, c'est que la Commission européenne nous a placés, nous la France, dans une procédure de déficit excessif. Ce qui est extrêmement mauvais, parce que c'est le même, on emprunte exactement le même chemin que la Grèce. L'étape d'après, c'est le FMI qui débarque. Si un jour le FMI débarque en France, là, il y aura des très très gros problèmes. S'ils le prendront un blanco et vireront des lignes de dépenses et sans regarder les conséquences sociales derrière. Et là, LFI pourra vraiment pleurer à l'austérité et pourra vraiment dire qu'il y a des mesures antisociales parce que là, ça fera extrêmement mal. Du coup, la priorité du gouvernement, c'est là où on est très heureux que ce soit Michel Barnier, notre Premier ministre. On espère de tout cœur qu'il suivra les recommandations du groupe droite républicaine à l'Assemblée, mais pour l'instant, le budget qu'il a présenté va dans le bon sens. Ça doit être de contenir ce déficit et surtout de le baisser. Parce que il y a deux possibilités pour baisser un déficit, soit trouver de nouvelles recettes, soit trouver, de faire des dépenses, économies, excusez-moi.
Voilà, c'est le plus important.
Le RN et le NFP, eux, ce qu'ils voulaient, c'était induire 50 milliards de recettes supplémentaires. Sauf que ces 50 milliards de recettes supplémentaires passaient par des impôts supplémentaires et par des taxes supplémentaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque nouvelle taxe, en général, impacte les Français. À titre d'exemple, une nouvelle taxe qui n'avait même pas encore été votée en commission, qui avait été votée en commission mais pas encore été votée en hémicycle, qui notamment impactait les vols intérieurs français. La taxe n'est pas encore appliquée, n'est même pas encore votée, que Air France avait déjà répercuté cette taxe sur ses tarifs. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque nouvelle taxe, les prix augmentent. Quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat des Français diminue et par conséquent, la consommation diminue. Et quand la consommation diminue, l'activité économique diminue. Si l'activité économique diminue, c'est tout simplement de nouvelles recettes en moins.
On rentre dans un cercle vicieux, finalement.
Quand la consommation diminue, il y a moins de recettes fiscales puisque la TVA diminue. Et ensuite, sur l'activité économique, forcément, les sociétés font moins de bénéfices, donc l'impôt sur la société diminue. Il y a peut-être moins d'emplois ou des emplois qui sont supprimés, donc ça fait encore des postes de recettes en moins. Donc parfois, on crée une nouvelle taxe va rapporter 1 milliard, mais par derrière, les conséquences peuvent être 2 ou 3 fois supérieures.
Est-ce qu'il fallait taxer les très hauts revenus ou, par exemple, les entreprises à très haute valeur ajoutée? Alors, on a beaucoup pointé du doigt Total ou d'autres. Il ne s'agit pas de faire le procès de Total ici ce matin, mais est-ce qu'il fallait taxer les grandes entreprises ou les très, très hauts revenus?
Mais qu'ils participent sur un temps donné à l'effort national, comme l'aura demandé le gouvernement de Michel Barnier, pour aider la France à se redresser d'une situation budgétaire qui est inédite et sans précédent. Ça, je le comprends parfaitement, et j'espère que leurs âmes patriotes consentiront à faire cet effort. Le problème dans le long terme, c'est qu'on est dans un monde mondialisé, dans une économie qui est elle-même mondialisée, et que si vous taxez trop haut ces hauts revenus des entreprises, le premier truc qu'elles vont faire, c'est prendre leurs valises et passer la frontière. Mais c'est très simple. Il y a des pays comme les Pays-Bas et l'Irlande qui ne jouent absolument pas le jeu
de la solidarité, on pourrait le dire comme ça, solidarité
oui,
face
exactement,
à l'impôt.
Une solidarité face à l'impôt, mais surtout d'une harmonisation fiscale avec les autres pays européens. Et si demain, ce que certains gouvernements avaient fait, je ne sais plus quel gouvernement nordique, avait expérimenté d'augmenter l'équivalent d'un ISF, d'un impôt sur les très hauts revenus. Et ce qui s'était passé, c'est que cet impôt était passé d'une trentaine de pourcents, une cinquantaine de pourcents. Et la première chose qui s'est passée à la première année, c'est que les recettes de cet impôt ont diminué. Et étaient bien plus basses que quand le taux d'imposition était plus bas. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que tout simplement les hauts revenus étaient partis. Donc en fait, il faut réussir à trouver le juste milieu entre taxer, ne pas taxer du tout, et trop taxer. Il faut trouver le juste milieu pour avoir les meilleures recettes pour l'État et qu'en même temps, eux, en face, ils trouvent leur compte.
Est-ce qu'il faut aussi avoir une harmonisation fiscale justement au niveau de l'Europe? Là, on déborde un petit peu au-delà du budget, mais justement pour des pays qui ne jouent pas le jeu, comme vous dites.
Dans l'idéal, oui, il le faudrait. À titre d'exemple, quand on voit que l'Irlande doit calculer 2 fois son PIB, une fois calculant son PIB réel et une autre fois calcule son PIB avec toutes les grandes boîtes qui y sont, Microsoft, Facebook et autres, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est tout simplement scandaleux. Microsoft France, qui a d'ailleurs des contrats avec l'État français, réalise chaque année en France un bénéfice de 0 euro. et toutes les filiales européennes de Microsoft réalisent un bénéfice de 0 euros chaque année. Sauf une seule filiale, la filiale irlandaise, qui réalise des bénéfices de plusieurs milliards, puisqu'en fait tous les bénéfices des filiales européennes sont transférés dans la filiale irlandaise. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur les sociétés est extrêmement bas et en général négocié avec l'État irlandais. C'est une concurrence parfaitement, c'est une concurrence fiscale qui est déloyale au sein de l'Union européenne. Et j'espère que quelqu'un au sein du gouvernement français aura un jour le courage de taper du poing sur la table et de dire aux Irlandais et aux Pays-Bas que ça suffit.
Un mot aussi sur le 49-3 qui pourrait arriver et j'allais dire remettre à zéro ces amendements qui ont été votés par les divers groupes ou encore peut-être le Sénat qui pourrait jouer un rôle important.
Le Sénat en général est bien plus mesuré que l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas connu la zadisation qu'a provoqué LFI. Et tant mieux pour eux, ça fait qu'on a des commissions qui sont beaucoup plus apaisées, des bords politiques qui se parlent beaucoup mieux et qui avancent main dans la main dans le bon sens, forcément avec des idées qui peuvent être divergentes, mais tout le monde essaie d'avancer dans l'intérêt du pays. À l'Assemblée nationale, on a bien vu que c'était pas trop le cas, c'était plus dans l'intérêt de ses propres réseaux sociaux de réussir à faire le buzz, et plutôt que d'avancer dans l'intérêt du pays. Donc on attend beaucoup du Sénat, mais je pense que le Sénat, comme sur le budget de l'année précédente, aura des débats sereins et apaisés et qui iront dans le bon sens. Sur la possibilité d'un 49-3, je pense très sincèrement que Michel Barnier va réussir à rassembler sur les bancs de l'Assemblée une majorité pour voter ce budget et que le recours au 49-3 ne sera pas nécessaire.
Voilà, donc l'avenir nous le dira. Un tout dernier mot, il nous reste allez, trois petites minutes, même pas deux minutes, nous dit notre réalisateur. Les collectivités locales souffrent aujourd'hui. elles réclament, évidemment, elles souhaitent participer à l'effort national, mais elles réclament peut-être moins d'efforts parce qu'elles font d'autres efforts sur des missions. On pense aux missions sociales pour les départements. Est-ce que là aussi, il faut considérer la question différemment ?
Mais sur les... Le budget des collectivités territoriales ces dernières années a très fortement augmenté et son nombre de fonctionnaires également. Après, son nombre de compétences transférées par l'État a également considérablement augmenté. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'État transfère des compétences aux collectivités territoriales toujours plus, leur demande toujours plus, mais parallèlement, le nombre de fonctionnaires de l'État ne baisse pas, le nombre de fonctionnaires des opérateurs agents de l'État ne baisse pas, et chaque année, ils demandent des rallonges budgétaires. Donc à un moment, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Il y a des agences qu'on pourrait supprimer.
Sur les six dernières années, sur les agences de l'État, c'est 30 000 fonctionnaires en plus et 30 milliards d'euros en plus. C'est-à-dire qu'il y a, quelque chose qui n'est pas parfait, enfin, qui ne suivent pas l'effort budgétaire. Donc nous, au LR, nous avons demandé un effort d'1,2 milliard sur ces agences opérateurs de l'État pour qu'eux aussi puissent participer au budget. Bon, ça c'est des coups de rabot pour réussir à limiter le déficit, mais sur le long terme il va falloir engager de vraies réformes structurelles afin de pouvoir ramener notre déficit dans des taux raisonnables.
C'est là-dessus que l'on va se quitter. Théo Le Verger, je voulais vous poser une petite question sur les États-Unis, on n'aura pas le temps
malheureusement.
Une inquiétude
grande, un pays fracturé.
Voilà, on va voir ce que vont nous donner les résultats des élections américaines alors ce soir et dans les jours qui viennent. Théo Le Verger, délégué régional des Jeunes Républicains, responsable départemental des Jeunes LR en Ille-et-Vilaine, était avec nous en direct au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, bonne journée à tous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.